C'est un privilège pour moi d'être parmi vous ce matin pour une dizaine de minutes, je crois, pour faire. C'est pas vraiment une annonce, c'est pas vraiment une information, c'est une invitation, c'est une exhortation à se mobiliser, à vous mobiliser. Je m'appelle Christian Ruiz, je suis marié avec Marie-Jeanne, c'est ma meilleure moitié. Nous avons trois enfants, Natacha, Jérémy et Rebecca. Effectivement, je suis là parce que je représente le ministère de la Marche pour Jésus à Strasbourg. Et j'aimerais vous parler de la part du Seigneur sur l'importance d'amener un témoignage dans les rues de sa ville. Strasbourg, c'est une ville particulière, comme chaque ville. Vous savez que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Vous savez que Dieu, dans la parole, a jugé des villes et que chaque ville a une place particulière dans le cœur de Dieu. Et que, je dirais, le peuple de Dieu d'une ville va faire qu'elle va aller dans une direction ou une autre. Peut-être vous n'êtes jamais dit cela, mais je crois que nous avons une responsabilité en tant que chrétiens pour la ville. Et Strasbourg, ce n'est pas juste Strasbourg, c'est l'eurométropole, c'est toute la région. Et Strasbourg, elle a une vocation même sur tout le continent. C'est une capitale européenne. Et ce qui va bouger spirituellement dans cette ville, ça va non seulement influencer la ville, la région, la nation, mais au-delà, ça va déborder sur l'Europe. En priant pour ce matin, où je voulais vous inviter à noter dans vos agendas le 25 mai, peut-être certains le savaient déjà, mais si vous ne le saviez pas encore, je vous invite, à moins que vous ayez déjà pris un engagement, que le Seigneur vous a déjà donné un rendez-vous pour quelque chose, c'est que le 25 mai, l'après-midi, vous puissiez mettre devant le Seigneur que c'est une date importante pour le salut de cette ville. Ça fera 20 ans cette année qu'une marche est organisée. Oh, elle est loin d'être parfaite. Vous savez, on est un comité, quelques personnes. On vient chaque année avec nos quelques pains et nos poissons devant Dieu pour dire « Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Qu'est-ce que tu attends de nous ?» Et à chaque fois, des géants se lèvent, comme lorsque Josué et Caleb se sont présentés devant la terre promise avec les autres 10 espions. Et bien souvent, on a envie, comme les 10 qui ont été découragés devant les géants, de dire « Non, on ne peut pas organiser une marche. C'est trop dur. C'est trop cher. Il y a trop d'oppression. Il y a trop d'opposition. » Et on cherche la face de Dieu et on décide. Par la foi, on y va encore. Le 25 mai, on y va à nouveau, pour la 20e fois. Et je crois que année après année, comme toutes les actions qui sont organisées, conduites par le Seigneur, et que des frères ou des sœurs entreprennent parce que le Seigneur leur a mis sur le cœur, ça va porter un fruit jusque dans l'éternité. La particularité de la marche pour Jésus, c'est que c'est l'occasion pour tous les chrétiens de votre assemblée, de toutes les assemblées, des œuvres de cette ville, au-delà, des groupes de prière, de ceux qui sont engagés dans tel ou tel mouvement, peu importe. Si vous avez choisi Christ dans votre vie et vous êtes déterminé à le servir et à voir le royaume de Dieu avancer et se manifester, et on l'a chanté, je crois, tout à l'heure, vous avez à cœur que le royaume de Dieu soit à l'œuvre, eh bien, c'est une occasion de le faire avancer un peu plus. Et l'enjeu est important. Vous suivez les actualités. Le 11 décembre dernier, notre ville a été frappée en son cœur. C'est la première fois qu'un attentat a eu lieu. Les forces de l'ordre en ont déjoué plus d'un. Même des terroristes ont été abattus dans le passé ou arrêtés. Des fois, on ne le sait même pas. Cette fois-ci, ça a eu lieu. Depuis, on a des actes de vandalisme, d'antisémitisme qui se multiplient dans tout le pays, dans tout le continent. On l'a entendu hier lors de la pastorale du CNEF, et en particulier à Strasbourg ou pas loin de chez nous. Sophie devait m'accompagner, c'est elle qui pilote la louange, mais elle est à Quatzenheim dans son village pour ce moment de commémoration puisque le cimetière juif de son village a été profané. Des dizaines de sépultures ont été taguées avec des croix gammées et des insultes antisémites. Nous avons une grande responsabilité pour notre ville. Et quand je dis nous, c'est chacun, sans exception. Il y a beaucoup de jeunes parmi vous et c'est réjouissant, Il y en a qui, comme moi, ont des cheveux blancs ou plus beaucoup de cheveux. Il y a des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, différentes couleurs. Et c'est ça la diversité du corps de Christ. Et quand le corps de Christ, dans sa diversité, se montre à la fois au monde visible, à nos concitoyens, mais aussi au monde invisible, aux puissances spirituelles qui voient dans les rues d'une ville un peuple de Dieu se mobiliser pour témoigner, pour louer, pour bénir la ville, eh bien, dans le monde spirituel et dans le monde naturel, des choses vont changer, j'en suis convaincu. J'ai encore quelques minutes. J'aimerais prendre trois situations qu'on a vécues au cours des 20 dernières années lors de la marche. Certains d'entre vous ont sans doute déjà participé à des marches. Peut-être que vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup de progrès à faire. N'hésitez pas à nous en faire part si vous pensez qu'on doit s'améliorer, et on doit s'améliorer. Mais même avec nos imperfections, le Seigneur peut nous utiliser et manifester sa gloire. Vous savez, des fois je rêve quand je prie pour la marche que l'onction de Dieu est tellement présente sur le cortège que les malades, les infirmes qui sont à côté sont visités surnaturellement par l'ombre de la marche qui se plane dans la ville. Et on a vu des choses très encourageantes. L'année dernière, le Seigneur avait mis sur notre cœur de bénir les forces de police. En 2017, il y a eu le record de suicides dans la police et dans la gendarmerie française. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Certains connaissent le Seigneur, qui sont souvent découragés, humiliés, méprisés, blessés. Le Seigneur a mis sur notre cœur, vous allez bénir ces hommes et ces femmes parce que je les aime. Et nous avons eu un temps spécial devant l'hôtel de police, nous avons pu bénir la police municipale et la police nationale. Nous avons soutenu aussi financièrement, parce que des fois, il faut aussi faire des actes concrets pour briser le pouvoir de Mammon. Nous avons soutenu deux associations. Dans le cadre de la marche, police et humanisme, et les orphelins de la police. Et je n'oublierai jamais ce contact de quelques instants avec cet officier de police qui représentait les orphelins de la police. Il avait perdu sa femme, elle-même fonctionnaire de police, et il se retrouvait veuf, avec un enfant orphelin. La marche pour Jésus, c'est une occasion de témoigner, d'amener le royaume de Dieu, d'élever la louange et de manifester l'atmosphère du ciel sur la terre. Il y a quelques années, on s'est arrêté devant la synagogue. Comme chaque année, c'est en général un samedi et c'était donc le jour du Shabbat. Et on avait invité une délégation. Avec le grand rabbin de l'époque, on avait décidé qu'on les rencontrerait pour manifester notre soutien. Et une délégation de la marche est allée à la rencontre de cette délégation de la communauté juive, avec le grand rabbin et d'autres responsables, des hommes et des femmes du consistoire et de la communauté israélite. Et on a eu un moment inoubliable également. Juste pour vous dire pourquoi on l'a fait, au Moyen-Âge, suite au massacre des Juifs qui a eu lieu à Strasbourg, où 2000 ont été brûlés vivants, place de la République, la synagogue de l'époque a été pillée et mes ancêtres, je dis mes ancêtres parce que je suis strasbourgeois, ont volé le chauffard qui était dans la synagogue, en ont fait une reproduction et sont, pendant 4 siècles et demi du sommet de la cathédrale, ils ont soufflé dans ce chauffard pour bannir les Juifs toutes les nuits de la ville de Strasbourg. Peut-être vous ignoriez cette histoire qui est une réalité. Pendant 450 ans, les Juifs ont dû sortir. Et on a eu à cœur de faire des cadeaux à la communauté et entre autres leur redonner un chauffard de Jérusalem qu'on leur a offert à ce moment-là. Et j'oublierai pas les larmes dans les yeux de ces hommes et de ces femmes qui étaient là. C'est l'occasion de témoigner que le corps de Christ est vivant et présent dans la ville, et d'amener la justice et l'amour de Dieu. Il y a bien une dizaine d'années, dernière anecdote que je voudrais vous partager, le Seigneur avait mis sur notre cœur de prier pour les institutions européennes tout au long de la marche. Et on s'est arrêté devant le Conseil de l'Europe, on s'est arrêté devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et alors qu'on approchait du Parlement européen, notre dernier objectif pour prier pour cette institution tellement importante qui se réunit dans un bâtiment qui ressemble à la tour de Babel, un orage violent a commencé. Le temps a changé en quelques minutes. En 10 minutes, le ciel était bleu, il est devenu noir et il y a eu un orage. Pour ceux qui y étaient, vous vous souvenez, parce qu'on a été rincés et mouillés jusqu'aux os. Mais il y avait un véritable combat spirituel, parce qu'en même temps que les chrétiens priaient pour les institutions européennes et se mobilisaient au travers de la marche pour la ville et pour l'Europe, il y avait au Palais des Congrès une réunion mondiale des francs-maçons de toute la planète qui se réunissaient à Strasbourg, dans notre ville, pour les institutions européennes, mais certainement pas pour les bénir au nom de Jésus-Christ. Et c'était donc une confrontation de puissance qui s'est passée. C'est juste trois anecdotes. On ne sait jamais ce qui va nous arriver. Alors peut-être on se dit, il vaut mieux que je reste chez moi. Et nous, on dit non, on va y aller, parce qu'on va faire reculer le royaume des ténèbres sur notre ville. Le Seigneur vous attend, il nous attend. Et je vous invite le 25 mai à rejoindre tous ceux et toutes celles qui sont là, qui seront là. On aura sans doute des amis allemands qui viennent chaque année nous renforcer, qui traversent le Rhin et qui sont avec nous pour cette ville. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, mettez-vous devant le Seigneur. Invitez vos frères et sœurs d'ici ou d'autres milieux que vous connaissez pour dire le 25 mai, il faut être là. C'est l'avenir de Strasbourg qui est en jeu. Aussi, et à travers cette marche, on peut renverser les choses et manifester l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu dans cette cité. Soyez bénis, le Seigneur vous encourage et que toute cette assemblée soit vraiment fortifiée, encouragée. Amen.
C'est Nadine. Donc vous avez tout compris. Le 25 mai, ça tombe bien, c'est pas le matin, hein, Claudia. Le 25 mai, c'est important. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure à Christian, les gens ils se mobilisent toujours contre le gouvernement, contre ceci, contre celui-là. Enfin, c'est ce qu'on voit actuellement. Et pour une fois qu'il y a des gens qui se mobilisent pour Jésus, alors on va faire la différence. Amen. Gloire à Dieu. Juste, je voudrais faire quelque chose. Voilà, je vous annonçais l'évangile comme ça ce matin. Salut Seb. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Seb, il jouait de la guitare assis, ici, tranquille, de la basse. Je me demandais où il était là. On peut faire la même chose, hein, mais c'est sympa, hein, Seb. Non. Vous pouvez applaudir la louange, ils étaient formidables. Vous êtes en forme? Super. Je vais essayer de trouver mon message et je vais vous l'apporter. Ça marche. Série sur Jésus. On a vraiment à cœur dans l'Église de se rapprocher plus encore de Jésus. On a vraiment à cœur de lui ressembler. Parce qu'il a fait des choses extraordinaires, mais il est venu en tant qu'homme sur la terre. Et ce qu'il a accompli en tant qu'homme, nous aussi, on peut l'accomplir. Pardon ? Et plus encore. Surtout dans la prière. On a un Dieu merveilleux. Et je voudrais juste, pendant les quelques semaines qui vont suivre, plusieurs semaines, on va parler à chaque dimanche de qui est Jésus, de ce qu'il a fait, comment il agissait. Je vais vous donner tous les thèmes. Et comme ça, vous pourrez venir et vous imprégner de ce Jésus si merveilleux qui a une telle confiance en nous. Ah, c'est là-bas. C'est super. C'est super, votre truc. Mais j'essaye, je ne suis pas doué pour ça, mais peut-être que Bastien va y arriver tout de suite. Vas-y voir, Bastien. Yes, ça ne vient pas de moi. Dans Luc, au chapitre 19. Ah, c'est super. Dans Luc, au chapitre 19 et au verset 10, il est écrit « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus est venu chercher les perdus. Et comme la Bible ne peut pas mentir, Jésus les a trouvés. Parce que c'est écrit « Quiconque cherche, trouve. » Ça, c'est une grande vérité. Si Jésus te cherche, il te trouve. Si Jésus est venu chercher les perdus, il les trouve. Le but de Jésus, le but de Dieu, c'est de trouver des hommes et des femmes qui ont besoin d'être transformés. Vous êtes le trésor de Dieu. Parce qu'on ne cherche que ce qui a de la valeur. Et quand on le trouve, on le chérit. J'ai trouvé ma femme. Elle m'appelle chérie. Et moi aussi. Dieu veut nous transformer afin de nous rendre encore plus beaux, encore plus riches à ses yeux. Il est écrit dans la prochaine slide, Jésus veut faire de nous la continuité de son ministère. Je suis la continuité du ministère de Jésus. Tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire, tu es la continuité du ministère de Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, il a appelé différentes personnes à venir à lui. Il a appelé différentes personnes à être ses disciples. Il y a eu des religieux. Il est venu pour eux. Il a appelé des gens qui étaient des ouvriers, des cadres, des manuels, des intellectuels. Il a appelé des hommes. Il a appelé des femmes. Il a appelé les parias de la société. Il a appelé des malades. Il a appelé des rejetés, il a appelé des prostituées, des soldats, des bergers, il a parlé aux enfants, à toutes sortes de catégories de personnes, Jésus s'est adressé. Il est venu les chercher. Il est venu les chercher afin qu'ils soient sauvés. Et un jour, il est entré selon sa coutume dans une synagogue, la synagogue de Nazareth, la ville où il était le charpentier. La Bible dit qu'il était le charpentier. Il n'est pas écrit qu'il était un charpentier. Je pense que dans cette ville de Nazareth, il y avait plusieurs charpentiers. Mais lui était le charpentier, la référence de cette ville de Nazareth. C'est lui qui a construit des charpentes, mais d'autres maisons, parce qu'un charpentier n'était pas seulement quelqu'un qui faisait des charpentes, aussi eh bien quelqu'un qui construisait des maisons. C'était une référence. Et quand il est rentré dans cette synagogue, comme il était coutume, il s'est proposé à lire un passage de la Bible de l'époque. Je dis la Bible de l'époque, parce qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament, mais il y avait l'Ancien Testament. Et il a pris un passage dans Ésaïe, au chapitre 61. Il y a juste écrit, mais je vais vous le lire. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Il a pris ce passage et il s'est arrêté à la moitié du verset 2, pour publier une année de grâce du Seigneur. On va le relire dans Luc au chapitre 4 et au verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. Se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, donc le rouleau, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. »
Waouh !
Ça a dû faire quand même un choc. Depuis des années, depuis des siècles, ils attendaient loin du Seigneur, le Messie. Et Jésus est dans la synagogue et il dit, « Aujourd'hui, devant vous, vous avez celui qui devait venir. Vous avez devant vous celui que vous attendiez. Je suis loin le Messie de Dieu. » Cette parole est accomplie. Jésus est venu pour accomplir la parole de Dieu. Il a accompli cette parole, mais tous ne le savent pas encore. Tous ne le savent pas et peut-être certains l'ont oublié. Donc c'est au travers de cette bonne nouvelle et au travers de nous que cette bonne nouvelle, elle doit être propagée. Et pour ça, j'ai besoin d'apprendre du Seigneur Jésus. Moi, j'aimerais tellement. Quand j'ouvre la Bible, je m'assieds derrière à la batterie et que tout le monde me regarde. Qu'est-ce qu'il va dire? J'aimerais que quand on ouvre la bouche, quand on se retrouve à un endroit, les yeux soient fixés sur nous. Tellement il y a une autorité qui est en train de se passer. J'ai besoin d'apprendre de Jésus. J'ai besoin de le connaître. J'ai besoin d'apprendre de Jésus pour recevoir ses instructions. La Bible dit pour rester dans le repos. Dans Matthieu chapitre 11 et au verset 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. » Ou encore, dans une autre version, il est écrit « Ou apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. J'ai besoin d'apprendre de Jésus. J'ai besoin de recevoir ses instructions. J'ai besoin de rester dans le repos, parce que amener des âmes, amener les perdus au salut, avoir à cœur le salut des âmes perdues loin de Dieu, c'est un joug, c'est un fardeau, c'est quelque chose qui nous pèse. Mais lorsque j'apprends de Jésus, la Bible dit que je le porte dans la douceur et dans la légèreté. J'ai besoin de ce fardeau sur mon cœur. J'ai besoin d'avoir ce fardeau. Je joue, tu me dis, il y a tant de gens qui sont perdus. Tant de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Mais Seigneur, laisse-moi dans le repos. Je vais pouvoir annoncer ce message. J'ai envie d'annoncer cette bonne nouvelle en étant dans la paix. Dans Matthieu chapitre 9 et au verset 13, il est écrit, « Allez et apprenez. » J'ai besoin d'apprendre ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Car je suis venu appeler des justes, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Vous connaissez cette histoire? Quand Jésus parle dans l'évangile de Matthieu, il s'adresse à un homme qui s'appelle Matthieu, Lévi. Et Matthieu, c'est un collecteur d'impôts. Il est assis à l'endroit des péages, c'est-à-dire que Matthieu, lui, il a une charge qu'il a eue des Romains. Le peuple romain, c'était ceux qui avaient envahi toute l'Europe. Enfin, oui, c'est ça. Et puis, le monde de l'époque. Et ils donnaient un joug sur tous les pays sur lesquels eh bien, ils dominaient. Et chacun des pays devait verser des impôts à cet envahisseur. Et ce qu'ils faisaient, les Romains, pour que ça soit encore plus humiliant pour le peuple sur qui il régnait, il nommait des juifs pour collecter les impôts. Et Matthieu, lui, était de ces gens-là. C'est quelqu'un qui avait une charge, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui volait, qui donnait aux Romains ce qu'il demandait, mais d'un autre côté, il volait ses compatriotes pour se faire de l'argent. Et Jésus s'approche de cet homme. Et c'est vrai que Jésus nous dérange. Il est assez dérangeant. Il vient vers cet homme et il lui dit, « Suis-moi. » Pas lui. « Non, attends, il y a plein de gens qui sont super, là. Il y a des gens qui sont là, qui sont bien, qui ont un bon, qui t'aiment, qui aiment Dieu, qui sont religieux. Pas Lévi. C'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un collaborateur, c'est quelqu'un, c'est un pourri. Enfin, hein. Mais Jésus, lui, il ne vient pas vers Matthieu pour lui dire toutes ces choses. Il lui dit, Matthieu, suis-moi. J'ai besoin d'apprendre de Jésus. J'ai besoin. Parce qu'on a vite fait de juger les personnes. Jésus, il ne vient pas vers Matthieu pour lui dire, voilà, Matthieu, maintenant, voilà ce que tu vas faire. Voilà. Tu veux venir avec moi, je te demande de venir, mais voilà, maintenant, tu ne voles plus. Tu triches plus, tu collabores plus, tu rembourses tout ce que tu as pris, et puis t'es un bon gars. Et puis voilà, maintenant tu vas, toutes ces choses que tu vas faire, maintenant tu vas prier, tu vas te mettre à genoux. Il n'y a pas dit toutes ces choses. Combien nous, quand on vient à Dieu, ou quand on parle des choses de Dieu à ces gens qui nous entourent, on leur dit, tu fais ceci, tu fais cela, tu verras, ça va marcher. Ça ne marche pas comme ça, suis-moi. Combien de fois on est intransigeant. Mais Jésus, lui, il a cette faculté de nous apprendre comment le suivre. J'ai besoin de connaître Jésus pour avancer dans son chemin. Jésus est le chemin et c'est ce chemin que je dois suivre. Jésus, il n'a pas dit, Matthieu, mon gars, maintenant tu vas faire profil bas. Il lui a dit, suis-moi. Et il est écrit, et cet homme se leva et le suivit. Je pense aux disciples, oh purée, pas lui, et Seigneur, tu ne le connais pas, pas Matthieu, maintenant, quelle honte qui va rejaillir sur nous. Tu te rends compte, il va s'asseoir là avec nous. Et Jésus, lui, va encore plus loin, il dit à Matthieu, Matthieu, tu m'invites dans ta maison. Les disciples ont dit, nous, on reste dehors. Hein. Il a dit, Jésus a dit, venez avec. Il s'est invité dans la maison de Matthieu. Matthieu a reçu Jésus et sa vie a été transformée. J'ai besoin, combien j'ai besoin d'apprendre du Seigneur Jésus. J'ai besoin d'apprendre puissamment dans Luc au chapitre 14 et au verset 26 à 27, il est écrit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Dans d'autres versions, et dans l'ancienne version Louis II, il est écrit « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Un jour, peu de temps après notre conversion, j'ai ma sœur qui est venue dans l'église où on était. Et puis, le pasteur, il a donné ce verset. Elle a dit, à ça, jamais. À ça, je ne veux pas haïr mon père, je ne veux pas haïr ma mère et tout. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais humainement, c'est impossible à faire. Préférer, c'est écrit, celui si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, à ses enfants, à ses frères, et même ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple, mais je ne peux pas. Humainement, ce n'est pas possible. Je ne peux pas dire à ma mère, je te hais. Elle va me dire, je ne peux pas dire à ma femme, je te hais. Je ne peux pas dire à mes enfants, je vous hais. Et pourtant, Jésus dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Comment ça peut devenir possible dans ma vie? Les exigences, elles semblent énormes. Et la Bible dit, si je suis chrétien, la Bible dit qu'un jour, je passerai devant le tribunal de Christ. Et devant ce tribunal, je vais être jugé sur ce que je savais que je devais faire et que je n'ai pas fait. Et les choses que j'ai faites et que peut-être bien j'aurais pas dû faire ou que j'ai faites et qui ont été des bonnes choses. pas quelque chose qui me retirera le salut ou quoi que ce soit. C'est le tribunal de Christ, afin de recevoir des récompenses. Afin de recevoir que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. J'ai besoin de connaître Jésus. J'ai besoin de connaître Jésus afin de dire, Seigneur, je t'aime. Tu passes avant toute chose dans ma vie, avant toute personne. J'ai grand besoin d'apprendre de lui, son amour, sa puissance, son pardon, son humilité, sa nature humaine, sa divinité, son caractère, sa relation avec le Père, sa relation avec les hommes, sa relation avec les âmes. J'ai besoin d'apprendre toutes ces choses. Dans Jean, au chapitre 17 et au verset 24, on peut lire, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, Père juste. Le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Oui. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et moi, je dis oui, Seigneur. Moi, je dis oui. Et vous pouvez dire amen. Moi, j'ai envie de ces choses. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Je sais, mais est-ce que je le crois? Est-ce que je crois que Jésus est avec moi tous les jours? Amen. Mais est-ce que je le vis tous les jours? C'est ça la différence. Jésus, il vivait parce qu'il avait l'amour du Père en lui. Tous les jours. Mais moi, je sais que Jésus est avec moi tous les jours. Je le crois, mais j'ai du mal à le vivre. Alors j'ai besoin d'apprendre de Jésus. Jésus a prié pour que s'accomplisse le but de Dieu pour l'homme. Le but de Dieu pour l'homme, c'est être aimé de Dieu. Et comme il le dit à Adam, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Moi, ça ne se passe pas. Un jour, je me suis retrouvé face à une vache. Enfin non, c'était un cheval qui était dans un champ. Je n'ai pas vu qui était là. Donc, j'ai passé le champ et d'un seul coup, le cheval vient vers moi. Et j'aurais bien voulu dire, dans le nom de Jésus, arrête-toi. Moi, j'ai couru et j'étais encore assez jeune de pouvoir sauter par-dessus la barrière. Mais Jésus, lui, il commandait aux poissons de venir s'accrocher à un hameçon ou un filet et puis avec un statère dans la bouche. Il se levait, il disait « Tempête, calme-toi. Vent, calmez-vous. » Il disait à l'eau « Deviens dur comme du macadam. » Et il marchait comme l'eau, sur l'eau. J'ai besoin. J'ai réellement besoin d'apprendre sur Jésus. Jésus, il a porté du fruit au point qu'aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes croient en Dieu. Il a dominé sur la création. Il est en communion parfaite avec le Père. Et Seigneur, moi j'ai envie d'être à ton école. J'ai envie que de passer à cette école de Dieu. Dans Jean chapitre 6, au verset 45, il est écrit, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. J'ai besoin que le Seigneur m'enseigne. Est-ce que vous avez besoin ? » C'est quelque chose d'important. Et pendant des semaines, on va apprendre à connaître qui est Jésus. Parce qu'on veut tous refléter sa gloire, je le suppose. On a envie d'être la vitrine du ciel. On a envie d'être les mains, les pieds, la bouche, les yeux du Seigneur, les oreilles du Seigneur sur cette terre. On a envie ces choses. On a envie de continuer ce pourquoi Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et toi, moi, je dois continuer cette œuvre. Mais j'ai besoin d'apprendre du Seigneur. Donc, on va voir plusieurs choses. Plusieurs dimanches, premier dimanche qu'on verra, si on peut continuer. Voilà, on va parler de sa divinité, qui est Jésus, Fils de Dieu, Alpha et Oméga. Par exemple, dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8, il est écrit, « Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. » Et là, dans le contexte, il est parlé de Dieu le Père. Et dans Apocalypse, au chapitre 22, versets 12 à 13 et au verset 16, il est écrit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Et au verset 16, il est écrit « Moi, Jésus, Dieu, le Père est Dieu, Jésus est Dieu. J'ai besoin de savoir ces choses. J'ai besoin d'en être convaincu. Sa divinité, elle nous parle de puissance, elle nous parle d'autorité, elle nous parle aussi de notre devoir de l'adorer. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. J'ai besoin de savoir qui est Jésus. C'est quelque chose qui doit être en moi. J'ai besoin de savoir l'autorité qu'il a, la puissance qu'il a, ce qu'il peut faire. Et puis, on va parler d'une deuxième chose, un autre dimanche, ou peut-être ça sera ensemble, de la soumission de Jésus au Père. Jésus, il dit dans Jean 14, 28, « Le Père est plus grand que moi. » Dans Jean chapitre 5, verset 19, « En vérité, je vais vous le dire, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi par elle-même. » Et Jésus précise au travers de sa parole que Dieu lui a fait un corps. Et il dit, c'est dans le livre des Hébreux, « Je suis viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Tu m'as formé un corps afin que je fasse ta volonté. Je suis le corps. » Je suis le corps de Christ. Dieu a formé un corps. Je suis le corps de Christ pour faire la volonté de Dieu. Et ce corps, il est soumis à la volonté de Dieu. J'ai besoin d'apprendre la soumission. J'ai besoin d'apprendre du Seigneur. Jésus, Dieu, Tout-Puissant, Père éternel, Conseiller, c'est écrit dans la parole de Dieu. Admirable. Il dit « Le Père est plus grand que moi ». Mais il dit aussi, et j'aime ce verset, « Tout ce que le Père fait, je le fais aussi. » C'est pour toi. Tout ce que le Père fait, je le fais aussi. Tout ce que le Père fait, tu peux le faire. C'est pour ça que j'ai à apprendre de Jésus. Et puis encore, on va parler de la nature humaine de Jésus. Il est né comme vous et moi au travers d'une femme. Il est de la race de David. Il a été conçu, c'est vrai, par le Saint-Esprit. Mais comme je suis fatigué, Jésus a connu la fatigue. Comme je peux ressentir la faim, la soif, Jésus a eu faim, il a eu soif. Comme je peux souffrir, comme je peux être jugé par ceux qui m'entourent, par ma famille, par mes amis, par les autres, comme je peux être rejeté, comme je peux être mis à l'écart. Jésus, il a connu le rejet, la souffrance, le mépris, la haine, l'incompréhension par sa famille, par ceux qui l'entouraient. Sa famille a dit un jour, mais il est hors de sens, il est fou. Il a été mis à part. Ses disciples l'ont abandonné. Il a connu la solitude. J'ai besoin d'apprendre. Parce que si lui, il l'a connu, il peut me comprendre parfaitement. Qui que tu sois, avec ton arrière-plan, avec ton passé, avec ce que tu vis aujourd'hui, Jésus connaît toutes ces choses. Et il peut changer ta vie. Et si le Seigneur, si tu connais toutes ces choses, si toi, tu connais ces choses, alors tu pourras avoir un impact pour tous ces gens qui t'entourent. Et puis ensuite, on va parler du caractère de Jésus, sa sainteté. L'amour pour Dieu, son Père, l'amour pour les hommes, l'amour pour les âmes, l'amour merveilleux de Dieu pour son Église. Tu es aimé de Dieu. Tu es l'épouse de Christ. Il y en a plein qui vont se marier. Enfin, il y a déjà deux personnes qui sont là, enfin, deux couples qui sont là. Sarah et puis Thomas et puis les Claudia et pas Bastien mais Claudia et Lionel et puis il y a aussi Rita et Julien qui vont se marier. Donc mois de mai, mois de juin, ça va être assez impressionnant. Mais jamais, que ça soit Thomas ou Sarah ou Claudia, Lionel ou Rita et Julien, jamais une de ces personnes ne te rendra aussi beau, aussi pur, aussi irréprochable que Jésus-Christ. Je suis l'épouse de Christ. C'est drôle de dire un gars qui dit ça. Une fille, ça passe, mais un gars qui dit ça, je suis l'épouse de Christ. Je suis content d'être un gars. Parce que je suis vraiment comme Christ. Un gars, il est violent, il est dur. C'est un gars, c'est un mec. mais il peut être aussi plein de douceur et d'attention. Amen. Jésus, ce n'était pas une mauviette. C'est quelqu'un qui avait des muscles, quelqu'un qui a renversé les marchands du temple, qui savait ce qu'était la souffrance. Ce n'était pas une omelette, c'est un vrai bonhomme. L'Église a besoin de vrais bonhommes. J'ai besoin d'apprendre du Seigneur, mais en étant plein de compassion, plein d'amour, plein de douceur, plein d'humilité. J'ai besoin d'apprendre du Seigneur. J'ai besoin d'apprendre son amour pour pardonner, pour aimer mes ennemis. C'est dur. Pour ne pas condamner sa douceur, sa fermeté, ses colères, son autorité, son humilité, sa compassion. J'ai besoin d'apprendre ces choses. Et c'est ce qu'on va faire à travers de plusieurs dimanches. Et puis, un autre caractère, son esprit de prière. Jésus est la prière. C'est très, très fort. Cette attitude de Jésus face à la prière. Jésus, il était pleinement homme. On va dire, ah oui, mais c'était Dieu. Il était pleinement homme. Il a été tenté comme nous. Il a passé des moments difficiles. Mais il y avait quelque chose qui était au-dessus de tout dans sa vie. C'était sa relation avec Dieu. Il offrait à Dieu son Père des prières et des supplications. Et moi, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre de lui afin de pouvoir dire, comme il est écrit, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Imaginez, Jésus, il est là. Il y a un homme qui est dans un tombeau. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Il sent déjà, dit la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il est presque en train de se décomposer. Et puis Jésus dit, « Roulez la pierre. » Et il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. » Et il précise, « Mais j'ai parlé afin que tous ceux-là, tous ceux qui m'entourent, en fait, ça veut dire dans le contexte, puissent croire. » Jésus, il est là devant le tombeau, qui est la pierre est roulée, et il dit, « Lazare, sort. » Et mon bonhomme, qui était mort depuis 4 jours, qui était enterré depuis 4 jours dans le tombeau, voilà le gars qui se lève et qui sort. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Moi, j'ai besoin d'avoir cette certitude dans mon cœur. Parce que Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que je n'ai faites. Mais il faut que je sache que le Père m'exauce toujours. Et pourquoi j'ai envie de dire ça? C'est afin que ceux qui m'entourent puissent le voir et puissent croire et se donner à Dieu. J'ai envie de remplir le ciel. Je ne sais pas si vous avez cette envie. Il y a des gens tout autour de vous, dans vos familles, dans vos amis, dans vos collègues de travail, qui ne connaissent pas Dieu. Mais si je sais que Dieu m'exauce toujours, alors je vais faire la différence. On a besoin d'apprendre quand Jésus priait, comment il priait, ce qu'il demandait, pourquoi il priait, avec qui il priait, à quel endroit il se trouvait. J'ai besoin d'apprendre de ces choses. Et Dieu me parle au travers de sa parole. Et puis, il y a encore la mort de Jésus le Vendredi Saint. Vendredi Saint à 10h, 11h, 10h30 ou 11h, on précisera, il y aura un culte. Pourquoi Jésus est-il mort? Qu'est-ce que ça implique pour moi? La mort de Jésus et qu'est-ce que ça implique? Les conséquences et ma responsabilité. J'ai besoin d'apprendre ces choses. Parce que Jésus dit, vous aussi, vous devez mourir à vous-même. Et puis, grand moment, comme on en a parlé tout à l'heure, Pâques. La Pâque. Jésus est vivant. Et ça a des implications dans ma vie de tous les jours. Sa résurrection, elle me motive. Elle me motive parce qu'il est là, je sais qu'il est vivant. Elle me motive à pardonner, elle me motive à aimer, elle me motive à évangéliser, elle me motive à parler, elle me motive à prier, elle me motive tous les jours. Parce que Jésus est vivant. C'est Pâques. Ça sera un moment festif. Un moment où vous pourrez inviter vos familles, inviter vos amis, inviter le tonton, la tata, enfin tous ceux qui sont là, qui vous entourent, qui ont besoin eux aussi d'entendre parler du message merveilleux de la résurrection de Jésus-Christ. Et puis encore, on va parler de son ascension. Ou la glorification de Jésus. Pourquoi Jésus est-il parti au ciel? Moi, cette question, elle m'a beaucoup travaillé. Pourquoi Jésus est parti? Mais on ne lui demandait pas ça. Enfin, personnellement, j'aurais été des disciples, j'aurais dit, mais Seigneur, moi, je t'attache. Tu pars pas. Mais Jésus est parti. Il est parti au ciel. Il est monté dans la gloire de Dieu. Amen. Il aurait pu rester sur la terre. Mais la Bible dit qu'il est parti au ciel pour nous préparer une place, pour intercéder pour nous montrer l'exemple, afin que nous aussi, on devienne un peuple d'intercesseurs. Intercéder, c'est pour les autres. Prier, je vais prier pour mes besoins. Par des prières, des supplications, je dois faire connaître mes besoins à Jésus. Mais je peux intercéder pour ceux qui m'entourent. Dieu cherche des intercesseurs, des gens qui se tiennent à la brèche pour faire la différence. Amen. J'ai besoin d'apprendre de Jésus. Pourquoi aujourd'hui je peux intercéder? Parce que la Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Tout est sous ses pieds. J'ai une grande autorité, toute domination dans les lieux célestes. J'ai besoin de connaître ces choses. J'ai besoin de cette puissance dans ma vie, puissance de la prière. On a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant. Vous voulez être ce peuple d'intercesseurs? Vous voulez être ce peuple qui prie, qui agit, et Dieu va se glorifier. Amen. On veut faire la différence. On veut marquer les générations. On a un Dieu qui est merveilleux. Amen. Et puis, une dernière chose, pendant que la louange arrive, merveille, ils ont anticipé. Le dernier moment, ça sera son retour. Dans Jean, chapitre 14, au verset 2 à 4, Jésus dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. L'Église, elle crie, Seigneur, reviens. Jésus est parti. Il a dit, je reviendrai. Et l'Église, elle dit, Seigneur, reviens. Et si Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses, c'est afin que tous puissent être sauvés. C'est afin qu'un maximum puisse venir à Dieu. C'est afin que l'on puisse accomplir ce que le Seigneur eh bien, a mis sur notre cœur. Chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Dieu a mis en nous un cœur nouveau. Il a mis en nous son esprit. C'est quoi son esprit? C'est sa vie. J'ai sa vie en moi. Si vous suivez mes commandements, la Bible dit, moi et le Père, Saint-Esprit, viendront en vous. J'ai la vie de Christ. Il vit en nous et pourtant on a tant besoin de refléter son image. On a tant besoin de refléter sa personne. On a tant besoin d'être à sa ressemblance. J'ai envie de ressembler à mon Père Céleste. Il est écrit que Dieu nous a fait à son image. Mais des fois, elle n'est pas terrible. Hein? Mais si Dieu est en moi, alors ça va me transformer. Je vais être transformé à son image. Notre ressemblance, à sa ressemblance. Ressembler à notre Père Céleste afin que le monde croie en lui. J'ai envie d'apprendre de toi, Seigneur. J'ai envie que tu me parles. J'ai envie de te ressembler. J'ai envie de pouvoir prendre les bonnes décisions, de parler comme toi, de prier pour toi. J'ai envie d'aimer comme toi. J'ai envie d'agir comme toi.